Le vrai Zizel.
La petite touche pour Adnan dans la surface de réparation.
Oui, Youssef! Oui, Youssef! L'ouverture du score! Crochet le but!
2-0 pour Brest!
Ici, c'est Brest.
En direct de l'Arena Café à Brest, où l'on retrouve tout de suite Thomas Lavaux. Bonsoir Thomas.
Oui, salut David, bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'on fait notre retour à l'Arena Café après quelques semaines loin du port du château. Très lourde actualité ce lundi avec un match du Stade Brestois à débriefer et deux à disputer cette semaine. On reviendra sur la victoire 1-0 face à Sochaux vendredi. Quatrième match sans défaite ni but encaissé. La défense a encore tenu bon, on en parlera avec Eric Danielou. Vous pouvez vous aussi intervenir. Venez nous dire, vous préférez voir un Stade Brestois peut-être un peu plus pimpant ou est-ce que tant que Brest gagne, même s'il cède le ballon à son adversaire, ça vous convient, venez nous le dire. 02 98 53 65 65. L'invité de cette Ici c'est Brest, ce sera Simon Fallette, le défenseur central et capitaine du Stade Brestois. On parlera du match de championnat qui l'attend demain soir à Laval, le club où il a lancé sa carrière pro. Vous entendrez qu'il connaît parfaitement bien cette équipe. Il nous parlera également du brassard de capitaine et des critiques d'Alex Dupont ces dernières semaines, comment il les a vécues. En parlant de Laval, on découvrira les dessous de cette équipe toujours très pénible à jouer avec Gilles Damingui, notre confrère de France Bleu Mayenne. Évidemment, on ne pouvait passer à côté du 8e tour de la Coupe de France. Ce sera ce week-end, Stade Briochin-Brest, samedi à 18h30. On appellera Guillaume Alanou, le président du club de CFA2, et puis Sarnan contre la Théarène, dimanche à 14h. On sera là avec l'entraîneur de Sarnan, Ronald Ferelec. Comme d'habitude, on parlera également d'autre chose que de football et le tennis club de Quimperlé qui disputera le week-end prochain la phase finale du championnat de France par équipe de tennis de première division. On sera en ligne avec Philippe Huon, l'entraîneur, et il nous dira notamment si les stars du TCQ seront là. Bautista Agut, 25e mondial, et Ruben Bemelmans qui a joué ce week-end la finale de la Coupe Davis avec la Belgique. Enfin, restez à l'écoute, d'ici à 19h, deux places en tribune Arkéa à gagner pour le dernier match de l'année 2015 à Francis Leblé. Ce sera le 18 décembre contre Clermont. Ici c'est Brest jusqu'à 19h et je vous redonne le numéro de téléphone pour vos réactions et vos remarques. 02 98 53 65 65.
Ici c'est Brest. Thomas Lavaux.
Avant ce menu copieux, je vous propose de revivre la 16e journée de Ligue 2 et la victoire 1-0 face à Sochaux telle que vous l'avez vécue en direct vendredi soir sur France Bleu Braise Zizel.
Joseph Monroz à la ligne médiane, dans le rond central Manu Pérez. Allez Pérez avec Youssef Hanan à 40 mètres de la cage qui glisse le ballon pour Batocchio. Il y a la montée d'Ali Keïta sur le côté gauche, finalement Batocchio qui remet dans l'axe du terrain. Les Sochaliens qui n'arrivent pas à relancer ce ballon. Et le but. Après 5 minutes de jeu pour Youssef Hanan, l'erreur de la défense sochalienne qui n'a pas réussi à dégager ce ballon qui semblait pourtant anodin mis dans la surface par Christian Batocchio. J'ai l'impression que c'est le jeune Jérôme Onguené qui n'a pas réussi à le relancer. Et Youssef Hanan, qui était à l'origine de cette occasion, c'est lui qui a servi Christian Batocchio. Youssef Hanan qui rôdait à une quinzaine de mètres de la cage de Papa Camara, qui récupère ce ballon, qui se présente en un contre un face au gardien sochalien et qui trompe le gardien sochalien d'une frappe au ras du sol.
Finalement, Fossurier va laisser ce ballon à Florian Martin. Attention à sa qualité de passe dont je vous parlais dans l'avant-match. Et ce coup franc est presque sur la ligne de touche, à 25 mètres, un petit peu moins, du poteau de corner.
Thomas.
Attention également à Florian Martin car il est gaucher. On va suivre ce coup franc. Adnan et Batocchio pour composer le mur. On essaye de grappiller quelques mètres. Vous vous arrêtez là, messieurs, dit Monsieur Delpech. Et Florian Martin va pouvoir effectuer ce coup franc. 4 passes décisives déjà pour l'ancien Niortais, c'est pas mal tiré. Oh, Johan Hartog qui s'est un petit peu troué, qui était sorti sur ce ballon, sur sa ligne des 6 mètres, qui l'a laissé passer. Et ce coup franc qui est venu mourir au pied du poteau gauche de Johan Hartog. Grosse frayeur, ce ballon il a sans doute pris un petit peu de vitesse avec le vent. Et Johan Hartog a eu du mal à lire la trajectoire d'un ballon qui était certes puissant, mais qui semblait pas trop difficile à négocier parce qu'il n'y avait pas de Sochalien présent à la retombée de ce ballon. Et Johan Hartog il l'a laissé filer entre ses gants. Nouvelle récupération sochalienne dans le rond central avec Florian Martin. Ils sont en train de prendre les affaires en main là, les joueurs de Sochaux. C'est pas bon. Florian Martin, le ballon en cloche dans la surface de réparation jusqu'à Thomas Garber, dont la reprise va passer à côté de la cage de Johan Hartog. C'était une nouvelle très grosse occasion pour le FC Sochaux, la deuxième à la 17e minute de jeu.
et les Brestois qui ont toujours le ballon avec Joseph Monrose. Pour Eric Thiébi, bien joué, il est limite de Sochalien. Thiébi qui a un petit peu de champ. Devant lui, Koubemba qui est tombé. Donc Thiébi glisse sur la droite pour Christian Batocchio. Mais Batocchio qui est à l'arrêt face à Teke. Allez Batocchio pour Koubemba dans la surface. La frappe de Koubemba, la parade de Papa Camara. La reprise derrière de Youssef Haddad dans la frappe et contrée, double parade de Papa Camara qui préserve le score à 1-0.
Là, ce sont les Sochaliens qui freinent un peu le jeu. Teke qui arrive à trouver Florian Martin dans le rond central. Il écarte pour Fossurier sur la gauche. Fossurier qui se met sur son pied droit. Toko et Cambi au sein de 4 Brestois. Il arrive quand même à passer pour Florian Martin qui va essayer de passer entre les deux. Contre favorable pour Florian Martin. Superbe tacle de la part de Simon Fallette. Mais ballon toujours pour Florian Martin dans l'arc de cercle de la surface de réparation. Il le laisse à Gerber. Frappe de Gerber et nouvelle parade de Johan Hartog. Frappe lourde. Frappe cadrée, frappe à mi-hauteur et superbe parade de Johan Hartog qui s'est détendu sur sa gauche. Christian Batocchio, petite passe aveugle dans le rond central pour Alexandre Alphonse. Il s'excentre sur la gauche, Alphonse, un relais avec Cuvillier. Cuvillier remet à Alphonse dans la profondeur. A bien joué, le bon passement de jambe de Alexandre Alphonse. Centre deuxième poteau pour Youssef Adnan. Ah, malheureusement, qui ne va pas réussir à reprendre ce ballon, mais il ne sort pas. Youssef Adnan le récupère près du poteau de corner. Et donc un coup franc sur le côté gauche, pas très loin de la ligne de touche, à 25 mètres du poteau de corner, pour Christian Batocchio et pour les Brestois. Deux Sochaliens dans le mur, ils sont pas à distance réglementaire là. Va falloir les faire reculer, monsieur Delpech. Finalement on les fait parculer, coup de sifflet, Christian Batocchio, le ballon au point de pénalty. Oh, la balle qui va finir à côté de la cage de Papa Camara. Aucun joueur pour dévier ce ballon vers la cage, aucun Brestois, aucun Sochalien. Et ça passe à droite de la cage sochalienne, à la 84e, ce coup franc. Florian Martin qui effectuera même pas la remise en jeu. Le Stade Brestois l'emporte sur le score d'un but à zéro. Avec une deuxième victoire consécutive à Francis Leblay.
Ici, c'est Brest, la Ligue 2.
Allez, un bref retour sur le match que vous venez de revivre en compagnie d'Éric Danielou qui est en ligne avec nous. Salut Éric.
Bonsoir Thomas.
Bon Eric, est-ce que ce match, cette victoire remportée 1-0 par Brest est logique? Parce que c'est Sochaux qui a quand même eu majoritairement le ballon lors de cette rencontre, alors que Brest était à domicile.
Moi je trouve que oui, c'est assez logique. Personnellement je trouve qu'en première mi-temps c'est plutôt Brest qui a eu le ballon. Je trouve qu'il y a eu la première mi-temps, il y a eu pas mal de jeux. Je trouve que Batocchio a déclenché beaucoup de coups d'attaque au milieu de terrain. Il a fait beaucoup de liens entre les lignes aussi. Moi je trouve que le Stade Brestois a fait une bonne première malgré la frayeur là sur le coup franc de Martin où Johan Hartog se trouve un peu.
Il laisse passer le ballon entre
ses bras. Le problème c'est qu'ils sont rentrés qu'avec un but, un seul petit but d'avance à la mi-temps. Bon après c'est toujours la même histoire. Plus les minutes, plus le match avance, plus l'équipe qui est menée tente le coup pour égaliser. Donc forcément en deuxième mi-temps ils ont été un petit peu ils ont un peu laissé le ballon, c'est vrai. Maintenant Sochaux n'a pas fait non plus une grosse pression, je trouve que
qu'est-ce qu'ils ont été maladroits les Sochaliens, hein. Ça s'est vu d'ailleurs sur le but où il y a des glissades à répétition.
Non, cela dit, moi, à part sur un coup de pied arrêté, et là, effectivement, il y a eu de grosses menaces parce que Martin les tire sacrément bien. Moi, j'ai jamais vraiment senti Sochaux où il manquait aussi beaucoup de monde à Sochaux capable de revenir au score, quoi. Sauf sur un corner ou un coup franc.
Ouais, message que Bat Maric nous avait laissé sur la page Facebook de France Bleu Brésil. Une victoire miraculeuse, mais une victoire qui fait du bien malgré la pluie et le froid. On en grelotte encore rien qu'à l'idée de le dire. La solidarité a pris le dessus. Bravo les Tizef, et notamment en défense centrale quand on parle de solidarité, parce qu'on a l'impression que Grégory Lorenzi a sans doute sorti le match de sa saison et qu'il entraîne également dans son sillage Simon Fallette.
Oui, bon, ce qui est sûr, c'est que Grégory Lorenzi a stabilisé cette défense. Grégory Nerenzi était surtout venu pour dépanner. Alors le voir presque en patron avec Simon Fallet de la défense, bon, ça souligne aussi que Sanko était blessé, c'est vrai, mais Brio aussi
et Brio
était
aussi
blessé. Mais bon, on s'attendait pas à voir Lorenzi avoir ce rôle-là. Cela dit, il le tient très bien. Bon, c'est vrai que si on fait le tour de cette défense, c'est quand même une défense un petit peu de briques et de broc, quoi, parce que se retrouver alors, avec toujours... un poste d'arrière droit Doumbia qui a parfaitement rempli son rôle. Bon, c'est quelqu'un qui a jamais joué à ce poste-là en Ligue 2. De l'autre côté, c'est Ali Keïta qui progresse cette année, c'est sûr, mais qui a 26-27 ans, n'avait jamais joué en Ligue 2 non plus avant cet été. Donc bon, il y a des raisons de se réjouir de ne pas prendre de but. Maintenant, sur la durée, c'est autre chose, quoi.
Ouais, parce que cette défense, elle donne, c'est bizarre parce qu'elle prend pas de but, mais elle donne toujours quand même un peu l'impression d'être au bord de la rupture. Ben, en tout cas, on verra ce que ça donnera demain soir à Laval. Merci beaucoup, Eric.
En tout cas, pour cette défense, parce que je pense que à Laval, il y aura une toute autre pression que lors du dernier match contre Sochaux.
Ouais, dans le pressing, on revivra peut-être un petit peu ce qu'on a vécu il y a une semaine pile au Havre. Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Bonne soirée, à bientôt.
Merci,
et puis on se retrouve bien sûr dans les colonnes du Télégramme à partir de demain, 18h25. On va jouer. J'ai deux places à vous offrir en tribune Arkéa pour le dernier match du Stade Brestois Francis Leblé, dernier match bien sûr de l'année civile 2015. Brest-Clermont vendredi 11 décembre à 20h, ça sera un match quand même assez sympa puisque Clermont est 5e du classement. Et en parlant de cette équipe de Clermont, comment s'appelle le Clermontois qui mène très très largement le classement des buteurs de Ligue 2 avec 13 buts inscrits en 15 matchs joués? C'est déjà 4 buts de plus que le joueur de Bourg-en-Bresse Perona, Pape Sané. Est-ce qu'il s'appelle ce joueur Famara Diédiou? Est-ce qu'il s'appelle Adrien Unou? Est-ce qu'il s'appelle Enzo Real? 02 98 53 65 65, Laurie attend vos appels dès à présent.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
L'invité de cette Ici c'est Brest cette semaine, il est enregistré. Il est dans la boîte, comme on dit, car les Brestois sont en ce moment même en route pour Laval, où ils jouent demain à 21h leur match de la 17e journée. Et ce sera bien sûr à vivre ce match Laval-Brest en direct sur France Bleu Breizh-Izel. Cet invité, c'est Simon Fallet, le capitaine du Stade Brestois, qui évoque sa saison, les remarques publiques faites à son sujet par Alex Dupont il y a quelques semaines. Il parle également du Stade Lavallois où il a lancé sa carrière pro en 2012-2013, une saison avant d'arriver au Stade Brestois. Écoutez Simon Fallet, le capitaine brestois, il connaît parfaitement l'adversaire auquel il fera face demain.
Pour moi, Laval, avec Nancy, chez eux, à domicile, c'est les deux équipes les plus compliquées à jouer. Et je le sais pour y avoir joué. Je sais que jouer à Francis Leblé, c'est pas facile. Donc, ça va être un match difficile. On va se faire presser, c'est sûr, sur un terrain qui est plutôt petit. Donc, à nous de trouver les solutions. Je vais pas les donner, mais on en a quelques-unes en tête.
Qu'est-ce qui a changé entre cette deuxième mi-temps à Dijon, où vous avez encaissé des buts très clairement évitables, concédé beaucoup d'occasions, et derrière, vous avez enchaîné sur cette série de 4 matchs sans prendre un seul but?
Comme je le disais, c'est pas le fruit du hasard. On travaille beaucoup avec le coach depuis le début de saison. Après, il y a eu beaucoup d'arrivées, donc il fallait trouver un 11 ou un 16 de départ. Et pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher. Après, vous dire pourquoi, je sais pas. Peut-être parce qu'il y avait aussi quelques erreurs individuelles. Moi, le premier, voilà, on a fait quelques erreurs, donc ça nous a coûté plutôt cher. Et aujourd'hui, on a réussi à trouver des automatismes et surtout une solidité défensive qui nous permet de prendre des points.
Le coach nous avait parlé il y a quelques semaines du fait qu'il attendait peut-être un peu plus de toi. Est-ce que ça t'a un peu piqué ou au contraire ça t'a plus boosté?
Non, ça m'a boosté. Après, voilà, c'est son rôle au coach de remettre les pendules à l'heure, savoir taper sur les gens quand il le faut. Moi, voilà, j'ai une responsabilité en plus cette année, c'est que j'ai le brassard de capitaine qui m'a donné. Donc je dois plus être irréprochable que les autres, mais c'est à la même image que l'équipe. Il faut pousser les autres vers le haut. Il faut en effet des fois peut-être piquer les joueurs pour qu'ils réagissent. Moi, j'ai pas forcément besoin de ça, mais ça m'a servi. Je suis un garçon à l'écoute, donc ça m'a servi de me faire quelques reproches pour que je puisse rendre ce qu'il veut que je lui rende sur le terrain.
Les premiers matchs où tu as eu le brassard, est-ce que tu t'es pas mis une certaine forme de pression que tu n'as peut-être plus maintenant?
Honnêtement, non. Après, c'était dans une période où on n'était pas forcément très bien. Donc aujourd'hui, ça va mieux, mais j'avais pas forcément de pression puisque j'ai déjà été capitaine dans les équipes précédentes, donc il n'y a pas forcément de pression.
Est-ce que ça change quelque chose sur le terrain? Est-ce qu'il faut peut-être un peu plus parler, un peu plus se faire entendre? Au contraire, le truc, c'est de rien changer?
Non, justement, je pense qu'il faut rien changer. Après, je suis défenseur. Mon poste aussi me permet de parler puisque je vois tous les joueurs devant moi et j'ai toujours eu l'habitude de parler, donc ça change pas grand chose pour moi, non.
Laval. C'est un peu là où ta carrière pro s'est lancée. Qu'est-ce que tu y as appris à Laval ?
C'est vrai que c'est là-bas que j'ai commencé à faire ma première saison pleine, parce que j'avais fait qu'un seul match de Ligue 1 à Lorient. Ça m'a permis de prendre de l'expérience, justement, de jouer avec des partenaires plus expérimentés. Et puis c'est Philippe Hinsberger qui m'a lancé, qui m'a permis de faire 30 matchs sur toute la saison. J'ai fait mon premier match contre Nantes, ça s'était plutôt bien passé, mais on avait pris un gros score. Donc voilà, là-bas j'ai pris des repères aussi, parce que le championnat de la Ligue 2, c'est pas comme la Ligue 1. Il y a plus de duels aussi, tactiquement, il y a beaucoup de pressing. Donc ça m'a permis d'évoluer, de grandir un peu dans mon jeu.
Tu dis que là-bas, le Stade Francis Lebasser est un peu plus petit. C'est les tribunes, l'aspect particulier de ce stade qui fait que le terrain est plus petit, ou c'est le terrain en lui-même ?
Le terrain est un petit peu plus petit et les tribunes aussi sont rapprochées, donc ça fait un ensemble, ça fait un terrain plutôt court. Plus petit, je pense, que les autres terrains, et c'est pour ça que c'est une ambiance un peu spéciale. C'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Voilà, c'est une petite ambiance chauvin, donc voilà, va falloir être concentré et pas tomber dans le traquenard. C'est une équipe qui joue sur ses qualités, voilà. Ils savent jouer au ballon, mais ils aiment aussi le duel, le combat et surtout le pressing. Donc il va falloir essayer de ressortir propre les ballons, et puis si on n'y arrive pas, on essaiera de chercher autre chose. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très athlétique, avec des joueurs très athlétiques, très costauds. Donc à nous de répondre présent. Ils ont été faire un nul à Evian. Voilà, c'est pas tout le monde qui va faire un nul à Evian, mais c'est des équipes qui voyage bien et qui arrive à prendre des points à domicile. Donc je pense que depuis l'arrivée de Zanko, leur coach, il y a une philosophie qui a été mise en place, et puis ça paye, ça porte ses fruits, puisque avant, Laval était un club qui jouait le maintien. Maintenant, je pense que c'est un club qui s'est bien installé dans la Ligue 2 et qui est capable de prétendre à plus que la moitié de tableau.
Simon Fallette, le capitaine du Stade Brestois, 18h30 pile sur France Bleu Braise Zizel. On va accueillir notre vainqueur Stéphane, qui nous appelle de Lannion. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous.
Alors, vous vivez en Côte d'Armor, vous vivez dans le Trégor, mais vous êtes supporter brestois, pas guingampais.
Si, les deux, en fait. J'aime bien le foot en général, donc je supporte tous les clubs bretons, en fait.
Et comme vous connaissez bien la Ligue 2, ben, vous connaissez le nom du meilleur buteur de ce championnat, le oui. Clermontois, auteur de 13 buts en 15 matchs. Son nom, c'est bien sûr...
Diédiou.
Voilà, c'est ça. Famara Diédiou. C'est pas trop facile à dire. Et Famara Diédiou et non Adrien Hunou, un ancien du Stade Rennais, et non Enzo Real, un ancien du Football Club de Lorient. Ben, vous serez à Francis Leblé pour assister à la rencontre face à Clermont. Vous êtes un habitué de Francis Leblé, Stéphane ?
Non, pas cette année pour l'instant, non. Non, c'est la première fois que j'irai voir le Stade Brestois, avec plaisir, jouer.
Eh bien, voilà, vous irez également en tribune Arkéa avec la personne de votre choix. Merci beaucoup de votre appel, Stéphane.
Merci à vous, et puis j'espère que Brest va remonter en Ligue 1.
Ah, on l'espère tous. Mais bon, hein, on va voir, il y a peut-être une série là qui est née depuis 3 matchs, on va voir ça. Merci Stéphane, à bientôt.
Merci, au revoir, bonne soirée.
Toujours au standard de France Bleu Braise Zizel, on accueille cette fois-ci Eric Delecronan. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir monsieur.
Alors vous souhaitez revenir sur la victoire de vendredi soir face à Sochaux. Alors la question que je posais il y a quelques minutes, est-ce que vous préférez un Stade Brestois peut-être un peu plus fringant, ou un Stade Brestois qui laisse le ballon à son adversaire mais qui récolte des points comme au Havre ou face à Sochaux ?
Vous savez, franchement, le foot, je n'ai rien à branler, parce qu'il y a une secte à Le Cronan et tout le monde le sait.
Voilà, très bien. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup de votre appel. Dans quelques secondes, nous allons pouvoir écouter notre collègue de France Bleu Mayenne, Gilles Damingui. Il est déjà en ligne avec nous. Ce sera dans quelques secondes après ces quelques messages. À tout de suite.
À Brest, de Lambézélec à Saint-Marc, ma radio, c'est France Bleu Braise-Zizel. Tous les jours avec vous, les experts.
L'hypnose et ses bienfaits. Qu'est-ce que l'hypnose ? A-t-elle été prouvée scientifiquement ? Comment se passe une séance ? Quelles sont les différentes techniques ? Tout le monde peut-il être hypnotisé ? Vous l'aurez compris, nous parlons ce mardi dans les experts avec Steve Doupeux de l'hypnose. Toutes vos questions au standard de France Bleu, Braise Zizel dans les experts à 9h. France
Bleu. Et tu sais ce que m'a dit Nicole hier ?
Bah non.
Maintenant que je suis à la retraite, j'ai besoin de créer mon espace personnel.
Tu te rends compte, après 45 ans de mariage...
Son espace personnel...
Non mais en fait, elle parlait de son espace personnel sur le site de l'assurance retraite.
Ah, d'accord. Tu m'as fait peur. Hein,
Vous aussi, créez votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr et découvrez des services personnalisés pour vous simplifier la vie. Pour ma retraite, je clique, c'est plus pratique.
C'était un message de l'assurance retraite, votre retraite de la sécurité sociale.
France Bleu vous fait aimer le cinéma. En voyage en Inde, Antoine rencontre Anna, qui ne lui ressemble en rien, mais l'attire plus que tout.
Madame l'ambassadrice, ça vous manque un peu la France?
Pas du tout. Ici, je sais pas, je me sens proche de la Terre, proche des astres, proche du cosmos. Vous vous moquez de moi?
Oui, je me moque de vous, évidemment.
Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure.
Jean Dujardin et Elsa Silberstein dans 1 plus 1, un film de Claude Lelouch.
Le 9 décembre au cinéma. Plus d'infos sur francebleu.fr.
Avec France Bleu et M6, la gourmandise n'est plus un vilain défaut. Le meilleur pâtissier sur M6, mercredi 2 décembre à 20h55. Déjà l'heure de la finale. Ils ne sont plus que 4. Qui va l'emporter et verra ses plus belles recettes publiées?
Tu m'as bluffé là.
À vos marques, prêts, pâtissez. Le meilleur pâtissier sur M6, la finale, mercredi 2 décembre à 20h55, dans vos chroniques télé et sur francebleu.fr.
France Bleu Brésil, supporter du Stade Brestois.
Demain soir, 21h-23h, à vivre sur France Bleu Brésil, après la Ligue 1, le match Lorient-Nice, en compagnie de Léo Rosé et de Loïc Druon. La Ligue 2, donc, 21h-23h, Laval-Stade Brestois. Et Simon Fallette nous a déjà pas mal dévoilé le jeu du Stade Lavallois il y a quelques minutes, mais on va en apprendre encore un peu plus sur cette équipe mayennaise, 13e de Ligue 2, en compagnie de Gilda Mingui de France Bleu Mayenne. Gilda, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Laval 19 points, 6 points de plus que le Paris FC 18e, mais 6 matchs sans victoire pour le Stade Lavallois et 4 matchs sans but inscrit. On a l'impression que le Stade perd un peu de vitesse en ce moment.
Oui, effectivement, un gros passage à vide. Heureusement qu'il y a eu les deux coupes hein, pour remporter quelques victoires, pour donner un petit peu de morale à cette équipe qui, effectivement, après avoir traversé un mois de septembre compliqué, sans victoire également, eh bien là, c'est reparti pour une série. 6 matchs sans succès, ça commence à faire long. Hein. La dernière victoire, c'était le 2 octobre à domicile contre Créteil. Demain, on sera le 1er décembre. Ça fera pratiquement 2 mois sans gagner en championnat. Et puis, effectivement, ce qui ressort vraiment, ce que tous les supporters ont constaté comme vous, Thomas, c'est ces 4 matchs consécutif sans marquer, un problème clairement dans l'animation offensive, avec pourtant un garçon comme Alioui que vous connaissez bien, prêté par Guingamp, Rachid qui avait vraiment brillé hein, au mois d'août notamment, 5 buts en championnat.
Très bon joueur, grosse frappe de loin. Hein.
Exactement, sur coup franc notamment, mais là il n'y arrive plus de solution. Donc un problème vraiment dans l'animation offensive, alors que défensivement il n'y a rien à dire.
Le dernier but inscrit par Laval en championnat, c'était César Zeoula le 23 octobre contre Tours. Entre temps, il y avait quand même eu une victoire de 2-1 en Coupe de France face à une DH de la Ligue du Maine. Bon, alors après, tout est lié, Gilda, à une équipe qui marque peu. Généralement, elle encaisse peu aussi. Et ça reste solide quand même en défense du côté lavallois. Un seul but encaissé lors de cette série de quatre derniers matchs.
Exactement, ouais. Face au Havre à domicile. Alors l'autre souci, c'est plus les performances à domicile. Simon Fallette disait cette équipe prend quelques points à domicile. Oui, c'est plutôt moins que plus. Hein. 4 défaites à domicile, seulement 2 victoires. Donc c'est vraiment là que le bal blesse. Hein. C'est vraiment à l'extérieur, le parcours est bon. Si vous faites un match nul à l'extérieur lorsque vous gagnez à domicile, c'est parfait. Donc les 2 nuls de la semaine dernière avec 2 déplacements consécutifs dans la même semaine, puisque le match de Sochaux a été décalé à mardi dernier. Ça fait 3 matchs en 8 jours, 2 déplacements la semaine dernière. Il y a eu 2 points de prix, c'est bien. Mais à domicile, il faut absolument gagner, puisque les Lavallois ont perdu 4 fois. Nancy, Metz, Bourg-en-Bresse et Le Havre à domicile. Donc il y a à la fois retrouvé de l'efficacité offensive, à la fois retrouvé de la confiance à domicile. Donc vraiment, l'enjeu demain soir, il est hyper important côté Lavallois. Il n'y a pas de pression, mais il y a une obligation de bien faire demain soir face à Brest.
Alors justement, pour ce match très important pour le Stade Lavallois, est-ce que l'équipe sera au complet? Est-ce que également Denis Zanko, pour essayer de rebooster quelque chose, va tenter quelques coups?
Alors, on ne sait jamais rien avec Denis Zanko, c'est vraiment le maître du secret. En revanche, il y a quand même une mauvaise nouvelle pour nous, supporters ou suiveurs du Stade Lavallois, c'est l'absence qui a été confirmée il y a 10 minutes, l'absence d'Erwan Quintin, l'ancien Vantet, latéral gauche, titulaire à chaque match, sauf quand il a été suspendu une fois, mais sinon vraiment titulaire indiscutable, très performant, très régulier dans ses performances. Il sera absent demain soir, touché au sternum vendredi à Annecy contre Evian Thonon-Gaillard, donc c'est l'absence principale. Il y a sinon un autre changement dans le groupe, un joueur qui sort à la Hassan Ndiaye qui n'est pas conservé, qui était pourtant du déplacement vendredi dernier. Et il y a 2 jeunes joueurs qui sont appelés, Kevin Afougou pour remplacer peut-être Erwan Quintin côté gauche, puisque l'autre joueur qui peut évoluer à ce poste, Kevin Perrault, est suspendu. Et puis sinon un milieu récupérateur, Gabriel Etinov, qui lui devrait démarrer la rencontre sur le banc. Ce qu'il faut souligner, hein, ce que disait un petit peu Simon Fallette par rapport à cette équipe lavalloise, et qui est performante surtout défensivement, c'est son milieu récupérateur, un milieu à trois, indiscutable, qui ne bouge pas depuis le début de saison, avec trois joueurs d'expérience, ou qui en tous les cas ont vraiment pris une bonne place à leur poste. C'est Anthony Gonsalves, Hassan Allah et Adrien Monfray, les trois milieux récupérateurs.
Merci beaucoup Gilles Damingui de France Bleu Mayenne. Bonne soirée, bon match demain. Et du côté brestois, Gaëtan Bello, toujours forfait, hein, toujours blessé à la cheville après le coup qu'il a reçu au Havre lundi dernier. Il devrait faire son retour à Evian Thonon-Gaillard la semaine prochaine. Donc ce sera sans doute un peu trop juste pour la Coupe de France samedi à Saint-Brieuc. Forfait également des deux autres blessés du Havre, Brian Pelé et Baïssama Sanko, touchés eux à la cuisse. Cheikh Doumbia devrait donc à nouveau être titulaire en tant que latéral droit. 18h39 sur France Bleu Braille Zizel. Petite pause musicale et puis juste après, on parle Coupe de France et tennis.
Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, sube, sube, sube la calor.
Viens mon flamme, de lo soleil couché, chauffe mon âme, jamais, jamais calme. Viens mon flamme, depuis qu'on se connaît. Je plane. J'ai toujours le cœur en été, comme une étincelle à mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau. J'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver était de trop. Moi j'ai toujours le sang chaud. Io.
Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Ay, sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo.
Viens m'enflammer jusqu'à la nuit tombée, envoûter mon âme, jamais, jamais calme. Hey. Viens m'enflammer sans jamais t'arrêter, jamais en panne, avec toi je plane. J'ai toujours le cœur en été, comme une étincelle à mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau. Et j'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver était de trop.
Tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor.
Me quemo, c'était Kenji Girac sur France Bleu Braille Zizel dans Ici c'est Brest à 18h41.
France Bleu Braille Zizel. Ici c'est Brest, jusqu'à 19h.
Allez, l'autre événement foot de la semaine, c'est bien sûr le 8e tour de la Coupe de France avec un suivre en duplex samedi soir sur France Bleu Braille Zizel. Deux rencontres, l'US Concarnoise face aux Voltigeurs de Châteaubriant, un duel entre équipes de CFA2 et puis coup d'envoi 18h30, Stade Briochin, Stade Brestois. Et on est en ligne avec Guillaume Alanou, le président du Stade Briochin. Bonsoir président.
Bonsoir.
Le Stade Briochin, bien sûr, ça nous renvoie à tellement de souvenirs. Désormais, le club évolue en CFA2. Vous êtes dixième de votre poule, la même que la réserve du Stade Brestois. Deux victoires, cinq matchs nuls, une seule défaite et seulement six buts encaissés. La force du Stade Briochin cette saison, c'est sa défense.
Ça fait déjà plusieurs saisons, oui, qu'on est assez solide de ce point de vue-là, puisque donc c'est notre troisième saison en CFA2. Et je crois qu'à chaque fois, on a dû finir dans les deux, trois meilleures défenses chaque saison. Donc en effet, c'est un point fort depuis quelques années. Maintenant, notre ratio offensif est malheureusement aussi lui déficitaire, puisqu'on n'est qu'à seulement 8 buts en 8 matchs. Et donc, c'est là où il faut tendre vers une amélioration.
Alors le mythique Stade Fred Aubert va revivre de jolies heures. Combien de spectateurs vous attendez samedi à 18h30 au moment du coup d'envoi ?
Écoutez, on essaie d'organiser ça. On souhaite vraiment que ce soit une belle fête pour en effet les spectateurs briochins qui sont sevrés de football de haut niveau depuis maintenant près de 18 ans. Donc, le plus possible, je vais vous dire, mais j'espère qu'on aura au moins, voilà, une galerie entre minimum 3000, en dessous de 3000, je serai déçu. Je pense qu'on aura plus.
Alors cette saison, hein, on disait le Stade Briochin est en CFA2. Quand on s'appelle le Stade Briochin, quand on joue à Fred Aubert, le CFA2, bien sûr, ça ne peut pas être une fin en soi, mais cette année, l'objectif, c'est peut-être d'abord assurer le maintien ou aller pourquoi pas gratter comme la saison dernière le haut de classement et voir ce qu'il peut advenir.
Non, l'objectif clairement affiché en début de saison, c'est depuis 4 ans maintenant que Sylvain Didot, un ancien Brestois, et notre coach, c'est de toujours faire mieux. L'année dernière, on a été en course pour la montée avec justement Châteaubriant qui a rencontré Concarneau jusqu'à 3-4 journées de la fin. Donc l'objectif, c'est de faire mieux. Aujourd'hui, on n'est que 10e au classement, mais avec 2 matchs en moins, il est vrai. Donc il faut relativiser aujourd'hui le classement.
Sachant que le CFA2, président, c'est 4 points la victoire. Hein, donc vous pouvez très vite mettre un coup de talon. Hein.
Ouais, potentiellement, si on gagne nos 2 matchs de retard, encore faut-il les gagner, et c'est un championnat tellement homogène que c'est pas une mince affaire, on se retrouverait 3e au classement. Donc vous voyez, bon, il n'y a pas péril dans la demeure. Non, on espère évidemment, dans le premier temps, assurer le maintien, parce que je viens de vous le dire, c'est un championnat très homogène, donc il peut tout se passer et tout le monde peut battre tout le monde. Mais en revanche, l'objectif, c'est d'aller le plus longtemps possible, faire douter Granville, qui semble être l'épouvantail de ce groupe-là, et puis se mêler à la course pour la deuxième place, puisqu'il y a les meilleurs deuxièmes qui peuvent accéder au CFA, donc pourquoi pas.
Merci beaucoup Guillaume Alanou, président du stade Briochin, et puis rendez-vous donc samedi 18h30 sur France Bleu Braille Zizel pour cette rencontre entre le stade Brestois Ligue 2 et le stade Briochin CFA 2, 3 divisions d'écart pour le stade Brestois. À bientôt.
À bientôt, merci à vous.
Et puis pour finir cette page Coupe de France, le petit poussé breton bien sûr, l'en avant de Cernan, club de DSR, qui affrontera dimanche 14h, la Théarène qui évolue elle en CFA2. Et c'est l'entraîneur de Cernan qui est avec nous, Ronald Ferelec. Bonsoir Ronald.
Oui, bonsoir.
Alors, le club de Cernan évolue en DSR, c'est le 8e rang. Pour les non-spécialistes, la CFA2, c'est le 5e rang. Donc, vous allez affronter une équipe qui évolue 3 divisions plus haut. La marche est haute, mais bon, j'imagine que vous y croyez quand même, vu l'engouement que ce match peut générer.
Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que la marche est haute, hein, comme vous le dites, mais je crois qu'elle est franchissable, cette marche-là. Certes, ce sera un match où il faudra pas commettre d'erreurs, hein, parce que c'est une belle équipe de CFA2, un bon collectif. Donc, il nous faudra être au maximum de nos possibilités, hein, pour espérer quelque chose. Mais évidemment, on a un petit espoir, oui.
Alors, comment aborder ce match, Ronald Ferelec? Est-ce qu'on attaque, on compte sur l'ambiance de fête pour déstabiliser l'adversaire, ou est-ce qu'on pense surtout à être solide et à profiter des coups qui pourraient se présenter?
Oh, il y a un peu de tout ça. Il faudra être déjà bien regroupé défensivement. Ça ne veut pas dire passer son temps à défendre, hein, puisque il faudra automatiquement peut-être espérer marquer un but pour l'emporter. Marquer un but. Bon, pour l'instant, on a joué avec beaucoup d'audace en Coupe de France. Donc, c'est un peu l'ingrédient que l'on souhaite retrouver dimanche prochain. Mais il nous faudra une partie un peu de mettre un peu de folie, comme vous l'avez dit, et puis espérer avoir la réussite sur nos attaques.
Hein. Sachant que vous êtes en milieu de classement à peu près de DSR. Voilà. Alors, je parlais de l'engouement, Ronald Ferelec, mais c'est vrai que déjà au tour précédent, vous êtes allé vous qualifier à Liffré, autre c'est équipe ça. De DSR comme vous, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez su mobiliser une centaine de supporters là, exactement. Dimanche. Voilà, j'imagine que non seulement le stade de la Baie Le Gall sera plein, mais on va quand même sentir également beaucoup d'ambiance autour de ce match en ville.
Ah oui, il y aura beaucoup de monde, j'espère, et puis une ambiance festive, parce que ça reste un match de foot, ça doit être une belle fête aussi du football, avant tout, avant de penser à la qualification. Bon, il y aura déjà deux adversaires qui vont se respecter, deux clubs qui se respectent énormément, donc ça facilite quand même les choses, et puis comme vous l'avez souligné, à Liffré, ça nous avait bien aidé, c'est l'apport de ce 12e homme là, les supporters qui étaient venus en nombre. C'est vrai qu'on a partagé un moment de forte émotion avec eux et on espère renouveler ça dimanche prochain.
Surtout que dans l'histoire de l'en avant Cernan, c'est pas une première, hein, un 8e tour. Je crois qu'il y en avait eu un également en 2012, il n'y a pas si longtemps.
C'est ça, exactement.
Ouais. Eh ben, écoutez, cette fois-ci, on vous souhaite bien sûr de franchir l'obstacle et d'être dans le chapeau au 32e de finale. Ronald Ferelec, merci beaucoup. Je crois qu'il y a entraînement ce soir.
Hein. Oui, c'est ça, exactement.
Merci encore Ronald Ferrelec. Et donc dimanche 14h, l'en avant de Sarnan qui affronte la TRN DSR contre CFA2. 18h48 sur France Bleu Braise-Isel, et tout de suite le tennis.
Ici, c'est Brest.
On va terminer cette émission avec la première division de tennis par équipe et Quimperlé qui va peut-être nous refaire le coup de 2012, l'année où le TCQ avait été sacré champion de France. Samedi, Quimperlé s'est qualifié pour la phase finale en remportant sa poule, la B, après une dernière victoire, 4 matchs à 2 à Paris. On va revenir sur cette rencontre et sur les phases finales en compagnie de Philippe Huon, l'entraîneur du tennis club quimperlois. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Revenons déjà sur la rencontre et donc cette victoire 4-2 samedi à Paris. Elle a été obtenue en plus sans Bemelmans, 108e joueur mondial qui jouait avec la Belgique la finale de la Coupe Davis, perdue face à l'Angleterre. Vous jouiez également sans Emilia, 174e à l'ATP qui avait raté un avion pour rentrer en France. Et sans également Vincent Milo, votre joueur numéro 1, qui s'est blessé en cours de match d'ailleurs. Ça donne un peu plus de ressort à cette performance à Paris.
Tout à fait, et on peut même y ajouter Roberto Bautista Agut, qui fait partie de notre équipe,
oui,
qui a pas joué avec nous.
25e
et notre
mondial.
Numéro 1, en plus, s'est blessé dès le premier jeu, donc effectivement, on a fait un véritable exploit à Paris. Et c'est vrai que c'est une double satisfaction, parce que battre le plus gros club français chez lui, et en étant diminué, je trouve que c'est encore plus beau, quoi. Et ouais, ça c'est, on a eu un petit peu de chance en fait en début de rencontre, puisque nous aussi on a bénéficié de la blessure d'un de leurs joueurs dans le match numéro 4.
Ah bah c'était Antoine
Mazac était plutôt malmené, ouais, contre Marc Gicquel
Oui.
Et Marc s'est blessé alors qu'il menait 1-7 et 4-1, donc il avait vraiment l'emprise sur le tactique, sur le match. Charles-Antoine a bénéficié de ça. Et puis derrière, ça nous a lancé. En numéro 3, Maxime Autom a gagné facilement. Et on s'est retrouvé à 2-2 à l'issue des simples. 2-2,
vous avez fait la différence sur les
doubles. Pour la phase finale. Ça nous a permis de nous relâcher en double et de gagner les deux doubles.
Et Philippe Huon, quand ce matin, chez nos confrères d'Ouest France, Mathieu Rodriguez, l'un de vos joueurs également, parle de l'esprit de cette équipe, est-ce qu'il ne s'est pas exprimé également à nouveau cet esprit à samedi à Paris?
C'est quelque chose que j'essaie de développer depuis pas mal d'années, déjà au club avec les petits, et puis finalement ça se retrouve maintenant dans l'équipe première. C'est des joueurs qui se connaissent bien, ce sont des amis sur le circuit, des joueurs qui jouent ensemble maintenant depuis 3-4 ans. C'est vrai qu'il y a un esprit qui est très très fort, qui nous a fait gagner beaucoup de matchs, et celui-là en fait partie. Et je pense que on aura le plus petit effectif des 4 équipes encore ce week-end en phase finale. Et l'esprit fera la différence à nouveau, j'espère.
Alors justement, ces phases finales à partir de samedi à Sarcelles, qui est le champion de France en titre. Vous connaîtrez votre adversaire vendredi, soit Boulogne-Billancourt, soit la Villa Primrose, qui est un club de Bordeaux qui compte notamment Jérémy Chardy dans ses rangs. Alors la composition de cette équipe, est-ce que Bautista Agut, est-ce que Vincent Milo, est-ce que Bemelmans, est-ce que Zemlia, vous pourrez compter sur ces joueurs? Vous avez jusqu'à demain pour donner une équipe.
Alors on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On a voulu récupérer Ruben Bemelmans, qui était notre priorité parce que c'est quelqu'un qui colle tout à fait à l'esprit de l'équipe et vraiment il nous apporte plus en double. Hélas, il avait prévu des vacances de longue date après la Coupe Davis, et on a discuté avec lui, mais c'était vraiment très très compliqué. Donc Ruben ne sera pas là. Roberto est blessé, donc il a mal au coude, donc Roberto sera pas là non plus. Ça c'est du côté des mauvaises nouvelles. Par contre, Grega va venir avec nous ce week-end, hein, Grega Zemlia, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et Vincent devrait être remis aussi, il a passé une échographie aujourd'hui, c'est a priori une grosse contracture, donc ça devrait le faire pour le week-end prochain. Donc on aura quand même une équipe très homogène, même si, comme je disais tout à l'heure, on risque d'avoir le plus petit effectif en qualité, je veux dire, au niveau du classement mondial sur le papier. Mais après, voilà, le papier c'est une chose. Ce ne sera pas la première fois qu'on sera les petits poussets, donc
Et justement, l'expérience de 2012, même s'il y a eu énormément de changements dans l'équipe, mais également dans les, également chez les adversaires, est-ce que cette expérience de 2012, elle peut vous servir d'expérience?
Ouais, ben on a. La première satisfaction, c'est que voilà, le club est installé maintenant depuis 4 ans parmi les, on va dire, les six meilleures équipes françaises. On a eu le titre. Et puis finalement, ils se sont aperçus qu'un permis, c'était pas un feu de paille. Et que voilà, depuis ce titre, on a fait deux fois troisième dans les poules. Et puis cette année, on se qualifie à nouveau pour la phase finale. Donc Quimperlé maintenant fait partie des grandes équipes de ce championnat et ça c'est vraiment une énorme satisfaction quel que soit le résultat. On a évidemment beaucoup moins de pression qu'un club comme le TC Paris ou que Villa Primrose pour le titre. Eux ils l'attendent, eux c'est leur objectif de l'année. Donc nous c'est, on va le prendre comme une fête, mais évidemment que nos joueurs sont remontés à bloc quoi. Donc on verra.
Merci beaucoup.
Sur le papier, de toute façon on est moins fort. Donc. Voilà.
En tout cas, donc rendez-vous samedi pour la demi-finale, soit Boulogne-Billancourt, soit Bordeaux,
ouais,
et puis
ouais.
On espère dimanche pour la finale, bien sûr.
Bah,
bonne préparation
aussi.
À vous.
Merci. Au revoir.
Merci, à très bientôt, Philippe Huon. Presque 18h55 sur France Bleu, Braise-Izel. Petite pause, et puis derrière, les nouvelles de Franck Camas.
Le faux billet est fait à la main tous les jours. Le faux billet arrive à 8h40 et revient à 11h40, du lundi au vendredi sur France Bleu Brésil. Les faux billets, j'en ai plein les poches.
France Bleu. Les élections régionales, c'est les dimanches 6 et 13 décembre 2015. On ne va pas juste vous dire que c'est important d'aller voter. Pensez aussi à tout ce que gère votre région. Développement économique, TER, lycée, formation professionnelle et bien d'autres domaines encore. À chacun sa raison d'aller voter aux élections régionales les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Pour plus d'infos, rendez-vous sur oui-je-vote.fr. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez au vote par procuration.
France Bleu, votre meilleur partenaire emploi et formation.
Vous cherchez un emploi?
Vous voulez suivre une formation? Déposer un CV?
France Bleu et Région Job vous offrent les meilleures opportunités dans votre région.
30 000 offres d'emploi, des formations, les actus de l'emploi à retrouver sur francebleu.fr.
L'emploi sur francebleu.fr, rubrique emploi.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
La voile pour terminer, donc le skipper Franck Camas gravement blessé à l'entraînement cet après-midi, le marin français le plus titré, vainqueur notamment de la Route du Rhum, de la Transat Jacques Vabre, de la Solitaire du Figaro, de la Volvo Ocean Race, un temps détenteur également du trophée Jules Verne. Eh bien, Franck Camas était cet après-midi en régate de préparation pour la prochaine America's Cup qui aura lieu en 2016 aux Bermudes. Et il est passé par-dessus bord en début d'après-midi en baie de Quiberon. Il sera opéré normalement ce soir à Nantes. Son chargé de communication Vincent Borde était en direct dans le journal de 18h avec Anne Tréguer pour donner des nouvelles de Franck Camas.
Franck était en entraînement effectivement dans le cadre de la préparation pour la Coupe de l'América. On s'entraînait à deux bateaux qui sont des GC32, qui sont des bateaux à foil et des bateaux qui volent. Et lors d'une manœuvre sur une procédure de départ, à un moment où le bateau accélère assez fortement, Franck, pour une raison qu'on ne connaît pas pour l'instant, est passé par-dessus bord et malheureusement, en passant par-dessus bord, son pied a été frappé par le safran du bateau hein, qui se trouve hors de l'eau à ce moment-là. Et à haute vitesse, ben, ça fait un choc qui est assez violent. Donc, son pied a été abîmé. Heureusement, on avait un bateau d'assistance qui suit toutes les manœuvres de tous les bateaux. Qu'il a rapidement récupéré pour le ramener à Port-Aligan.
Alors comment ça s'est passé après? Parce qu'il a été, c'est ça, transféré sur Nantes?
Alors il est d'abord été à Port-Aligan où les pompiers avaient été prévenus. Là, il y a eu un médecin urgentiste qui était sur zone, qui est rentré en contact avec un chirurgien orthopédique qu'on connaît ici, qui est basé à la clinique mutualiste de Lorient. Et il a été convenu entre eux qu'il était plus raisonnable et plus profitable pour Franck d'être transféré vers l'hôpital de Nantes. Donc il y a un hélicoptère qui est venu le chercher pour aller le transporter à Nantes.
Donc une prise en charge rapide. Est-ce que cela compromet la suite de l'entraînement de la Team France en vue de la Coupe de l'América prévue en 2017?
Alors, écoutez, dans un premier temps, oui, ça chamboule des plans et une question d'organisation, parce que Franck est le barreur d'un des deux bateaux, donc ça demande à se réorganiser. Maintenant, il n'a certainement qu'une idée en tête, c'est de revenir. Bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va être possible. Il faut, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Laissons pour l'instant le temps au chirurgien de l'opérer, de le soigner du mieux possible, et puis d'avoir davantage d'informations sur la gravité de la blessure. Mais ce projet de Groupama Team France pour la Coupe de l'América continue bien évidemment, c'est dans un an et demi. Et Franck, on connaît sa réactivité, sa volonté aussi. Et on ne doute pas de sa capacité à reprendre la barre du bateau dans les meilleurs délais, tout en respectant les contraintes liées à ce type d'accident.
Vincent Borde, qui était en direct dans le journal de 18h sur France Bleu Braise-Isel, et qui nous donnait donc des nouvelles de Franck Camas. Dans quelques secondes, 19h, vous retrouverez Clément Soubigou. Bravo à Stéphane Delagnon, qui a remporté les deux places pour Brest-Clermont mise en jeu. Merci à Roland Deroux et à Fred Baguet, qui était à la réalisation technique de cette émission. Rendez-vous demain, 19h, pour la Ligue 1, la rencontre entre Lorient et Nice, à suivre avec Léo Rosé et Loïc Druon. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à